Bizarre cette voiture du gang des lions qui stationne dans le coin. C'est pas leur secteur d'habitude. Ces salauds. Toujours à embobiner des herbivores pour les dépecer et vendre leur carcasse au marché noir. C'est qui le pauvre type qui va y laisser sa peau cette fois?
C'est l'heure. Ne tardons pas.
Très bien, allons-y.
Eh mais c'est Taro? C'est Taro qui monte dans cette voiture? Non, Taro! Taro, dégage de là, vite! Merde, c'est sûr, ils vont en faire du rôti de serre, là. Et en plus, ils arrosent les flics de toute la ville. Pas le choix. Je vais devoir le sauver moi-même. Cette odeur de viande crue qui m'embrouille l'esprit. Reprends-toi, Alicus. Ne laisse pas les instincts de loup te faire dévier de ta mission. Et toi, là? Dis-moi où est le QG du gang des lions, ou c'est avec ta chair que je vais recouvrir ton étal.
Oh là, pas besoin de me menacer, mon gars. Regarde, c'est la discothèque là-bas, au bout de la rue. Si tu tiens tant que ça à crever.
Le Devil's Kitten, hein? Bon. Allez, c'est parti. Que personne ne bouge une oreille. Désolé, messieurs les lions, mais ce cerf, c'est moi qui le récupère. Allez, viens, Taro, on se tire.
Bravo, Ulicus. Quel esprit admirable. Toujours prêt à se sacrifier pour sauver les faibles. Mais dis-moi, mon cher loup, pourquoi quitterais-je un club dont je suis aux commandes?
Le samouraï et la soubrette. Beastars.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode canonique du podcast Le Soupirail et la Brouette. Donc nous allons parler cette fois-ci de Beastars, qui est un animé qui a été adapté d'un manga. L'animé est donc disponible actuellement en 2 saisons. C'est donc sur Netflix. Ça a été diffusé donc en octobre-décembre 2019 pour la saison 1 et de janvier à mars pour la saison 2. Donc 2019 et 2021 respectivement.
Oui, sachant que pour Netflix, ça a été diffusé d'un coup en binge, mais il y a une diffusion japonaise
Qui a été faite de semaine en semaine. Et donc il me semble que tu as dit qu'une saison 3 était prévue.
Oui, on l'a appris là en ce début d'année qu'une saison 3 était prévue pour Beastars.
Voilà, donc c'est aujourd'hui encore disponible sur Netflix en France, en version originale sous-titrée comme en version française. C'est le studio Orange à l'animation, j'avais oublié de le mentionner. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle?
Alors en fait, on va suivre un étudiant qui s'appelle Legoshi dans une académie qui est réservée en fait aux animaux. Enfin, toutes les personnes sont des animaux humanoïdes. Et c'était une académie, une université où on sépare les carnivores et les omnivores. Et lui fait partie d'un club.
Tu veux dire les herbivores?
J'ai dit les...
Les omnivores.
Ah, les omnivores.
Ah oui.
Spoil. léger spoil. Donc, les carnivores et les herbivores, pardon. Et il se trouve qu'il y a un club dans cette université qui rassemble herbivores et carnivore
qui est le club de théâtre.
Le club de théâtre. Sauf que dès le premier épisode, il y a un meurtre au club de théâtre. Un herbivore s'est fait tuer. Et cet événement en fait va secouer le club de théâtre. Et Legoshi va être, en tant que loup, va être placé sous le feu des projecteurs de par ses petits camarades et va devoir un peu en tout cas, essayer de trouver sa véritable force, que ça soit par rapport à la star du club qui s'appelle Louis, ou par rapport à une jeune lapine qui s'appelle Haru, qui l'intrigue beaucoup.
Oui, je précise, le meurtre n'a pas eu lieu au club de théâtre.
Sur la scène du théâtre.
Voilà, c'est une personne qui était membre du club de théâtre qui a été tuée. C'est un alpaga qui a été tué. Et donc, effectivement, ça secoue le club, surtout vu, comme tu l'as dit, c'est le seul où ils sont encore mélangés.
Oui,
à ce
c'est
moment-là.
Ça. Toutes les activités dans cette. Toutes les activités, entre guillemets, de club dans cette université, les herbivores et les carnivores sont strictement séparés.
Voilà. Ok, et ben attaquons par le vif du sujet. Comme d'hab, hein, pas grande nouveauté au niveau du plan. On va parler d'abord de technique.
Yes.
Moi, je voulais commencer sur l'aspect visuel. On a déjà visionné une autre série du même studio qui utilise la même technologie, qui est Useki no Kuni, donc l'ère des cristaux, avec le même genre de 3D. Moi, je trouve que ça passe un peu mieux sur Beastars. Je sais pas. Pas expliquer pourquoi. Est-ce que c'est le fait que ce soit des animaux et pas des cailloux humanoïdes? Enfin, j'arrive pas à l'expliquer. Mais après avoir visionné du coup l'un puis l'autre puis de nouveau l'un, je trouve que ça marche mieux sur Beastars. Et je sais que toi, t'as l'avis justement opposé.
Effectivement, on l'a pas précisé. C'est vrai qu'il l'a pas précisé dans notre synopsis, c'est que c'est un animé qui est en full 3D. Il faut dire que c'est un des rares animés japonais en full 3D qui n'a pas l'air technologiquement ou artistiquement complètement à la rue, hein. Donc il y a quand même une qualité, hein. Moi j'ai préféré Useki no Kuni justement, en tout cas au niveau technique, justement parce que c'est un univers qui est beaucoup plus fantasmé,
ouais,
et moins ancré dans le réel, qui fait que j'avais accepté des approximations. Alors que des fois, Beastars essaye de faire dans le naturalisme, notamment dans la manière de représenter les animaux, la manière de présenter son monde entre son université, la ville et les autres endroits qu'on va visiter, qui fait que des fois, je vais noter des petits trucs qui vont un peu m'embêter par rapport à les mêmes références en 2D que j'aurais pu voir ailleurs.
Ok, du coup, il me semble que tu voulais parler du rendu.
Oui, le rendu, en fait, on est sur un rendu très cel-shading, avec cel-shading sur comme une sorte de grain, avec un grain un peu comme si on avait mis une couche de sable un peu partout, en fait, pour schématiser.
Un grain de pellicule.
Ouais, c'est ça. Donc, avec beaucoup de dégradés sur les couleurs, avec une ambiance pastel, notamment sur les scènes en journée. En contraste, les scènes nocturnes, elles jouent à fond beaucoup sur. Elles vont jouer beaucoup sur le fait que tu vas avoir des couleurs ultra saturées, notamment des effets de lumière et d'éclairage, avec notamment on va avoir des sortes de j'allais dire des lasers rouges. J'ai pas envie de spoiler.
Je vois de quoi tu parles.
Je veux pas spoiler, mais voilà, mais qui sont très convaincants et qui marchent. Enfin, je trouve qu'ils visuellement sont très marquants.
Mm.
Par contre, l'animation, elle, est un peu plus irrégulière, avec des fois des scènes vraiment ultra convaincantes, notamment sur la posture des animaux, sur leur manière de marcher, qui est vraiment très étudiée, qui est très différente d'un animal à un autre. On va par exemple reprendre, je sais pas, que ce soit les dandinements d'une poule, l'attitude d'un un chien qui va être beaucoup plus alerte, ou un ours qui va être beaucoup plus pâteau. Je trouve que les cycles d'animation sont vraiment très bien foutus pour tout ça.
Ouais. Ouais.
Voilà. Alors que, par contre, il y a d'autres fois, notamment lors de combats, où, ben, je sais pas, on va dire que voilà, c'est pas du Sakuga. Pourtant, c'est de la 3D. Mais je trouve que des fois, c'est ouais, ça tressaute, on trouve que c'est un peu, c'est pas assez bien animé. C'est comme s'il manquait de l'image par seconde, quoi. Et c'est assez ironique par rapport à la technologie utilisée.
Ouais, bah je pense la grande différence par rapport à la 2D, qui t'offre une certaine liberté. À mon avis, en 3D, ils ont dû faire face à des limitations de rig, des formations professionnelles. Maintenant que je suis
depuis rig
presque 2 ans dans le milieu, la façon dont tu conçois le squelette, en fait, du modèle 3D. Et en animation, tu as beau faire ce que tu peux, tu finis toujours par être limité techniquement par les possibilités offertes par la conception du squelette du personnage. Et en fonction des cadences d'image et de ce que tu veux faire, ça peut être difficile. Et il y a, alors c'est encore plus vicieux, mais il y a aussi des choses qui rendent très bien à ce qu'on appelle l'animatique en français, donc le storyboard en anglais, je pense que ce mot vous est plus familier. Il y a des choses qui rendent très bien au storyboard. Qui en fait ne rend tout simplement pas bien une fois que tu passes à l'animation. Et du coup, ça fait partie des difficultés de la 3D qu'on a, je pense, moins en 2D, parce que même si en 2D tu peux avoir des sortes de façons de faire du squelette, quand tu fais du dessin, alors par ordinateur, mais du dessin traditionnel, Tu peux quand même aller au-delà des limites de la physique, notamment on a parlé donc de Masaki Yuasa auparavant. Quand dans Lou et l'île aux sirènes les mecs dansent, leurs pieds peuvent s'étendre et leurs jambes font 3 mètres le temps d'une image et on s'en fout parce que c'est juste pour appuyer une scène de danse quoi. Voilà. Là en 3D, c'est vrai que tu fais face à des difficultés du monde physique. Où les tailles, les mouvements, les vitesses de déplacement sont forcément limitées et tu fais face à des problèmes où tu te dis putain en fait ça quand on l'a écrit et quand on l'a dessiné ça rendait bien et puis maintenant qu'on essaye de le faire c'est difficile.
Et puis tout le monde n'a pas une armée d'animateurs façon Pixar pour une scène spécifique pour tout déformer à la volonté
ouais.
S'il et le faut.
Surtout au Japon, mais à souligner que du coup Beastars et du coup Hoseki no Kuni font partie des perles rares à ce niveau qui arrivent à se tenir quand même techniquement.
Ouais,
ça tient la route quoi quand même.
Ouais. Je reste quand même un poil frustré par les scènes d'action. Hein. On sait que Orange sait faire des scènes d'action qui tapent même en termes d'angle de caméra et de mise en scène. Là, c'est vrai que je suis resté sur ma faim.
Elles sont rares déjà.
Elles sont rares
et elles sont pas forcément extravagantes.
Elles sont pas top, ouais.
Ok. Du coup, on va partir sur les conditions audio. Moi, vas-y. J'ai trouvé l'opening vraiment intéressant en termes de composition d'image. Surtout qu'il résume assez bien le concept du début de la série en le représentant un petit peu comme on représenterait un conte pour enfants au final, une comptine. Et en plus de ça, je trouve qu'il est super dansant. Enfin, je sais pas, ça m'est quasi impossible de l'écouter sans me mettre à me dandiner. Donc, je suis peut-être pas forcément le maître étalon en la matière, mais en tout cas, je trouve qu'il est super entraînant. Et il me semble que toi, tu voulais parler plus de l'OST.
Pourtant, t'as un déhanché de légendaire, on le sait
oui,
tous, quoi.
Dans le cadre intime, certes. Moment de gênance. Allez, vas-y, parle-nous de la musique du coup.
Oui, alors juste pour rebondir sur le générique, effectivement, hein, il est très séduisant par non seulement par son thème enjoué hein, qui est porté avec son motif de piano diabolique. Hein. C'est très simple, mais effectivement, on a tout le temps envie de sautiller, de danser. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça complète très bien la remarquable animation en pâte à modeler stop motion qui est pas si courante mais qui marche extrêmement bien pour le générique de la saison 1. J'aime beaucoup moins le générique de la saison 2, hein, c'est électro-rock. Je le trouve finalement très classique par rapport au reste de la BO pour le coup qui est vraiment lui très travaillé et très divers.
Le générique de la saison 2, j'ai beaucoup aimé la fin. Les 10 dernières secondes, en fait. Pareil, il y a un passage super entraînant en termes d'instru, mais effectivement, il est visuellement notamment moins impactant que le premier.
Oui, clairement. Je pense que de toute façon, pour tous ceux qui ont vu les deux saisons de Beastars, on retient absolument surtout le générique de la saison 1. Parlons de la bande originale. La bande originale est vraiment riche. Elle est intrigante, elle est intéressante. Elle est très orientée, orchestrale en fait. Hein, avec on a des instruments populaires d'un côté, avec de la percu, de l'accordéon qui fait des airs de tango, même des fois limite musette, de la guitare acoustique ou électrique, des cuivres qu'on retrouve avec des sonorités fanfare. Et on tranche complètement avec des instruments entre guillemets plus nobles, avec donc des violons, des clarinettes, des hautbois et des cuivres utilisés comme dans des compositions symphoniques. On a des morceaux en fait qui mettent l'accent sur la virtuosité plus que sur le côté orchestration. Hein, et je pense que c'est assez logique hein, pour une œuvre qui met l'accent plus sur l'introspection des personnages que sur l'histoire de manière générale. On en parlera plus tard. Hein. Entre c'est un show qui est orienté personnage et pas trop scénario. Je trouve que de façon rigolote, en fait, mon morceau préféré, c'est le thème du personnage Six Eye, donc Six Yeux.
Donc saison 2, là.
Ouais, c'est mon thème préféré, hein, avec qui commence sur des lignes très, très Moyen-Orient, hein, avec de la flûte arabe, pour finir sur des rythmiques lourdes, métal et des violons qui reprennent la mélodie de la flûte. C'est vraiment une excellente composition. C'est dommage d'avoir fait ça pour un personnage qu'on voit aussi peu. Et sinon, globalement, c'est des standards jazz vraiment très séduisants. Je citerai le morceau Don't Forget. Et puis surtout, tous les morceaux autour de la storyline de Louis, hein, Many Stories ou Between Soil and Sky, qui sont vraiment des très bons titres. Voilà. Bon, j'ai un peu parlé de la, j'ai un peu parlé de la musique. J'ai commencé à parler un petit peu de narration scénario. Voilà, on a en termes de narration, on a une vraie séparation entre la saison 1 et la saison 2 en termes de, disons, de tempo et de construction. La saison 1, elle est plutôt orientée tranche de vie, romance, introspection. Là où la deuxième, elle est très portée sur le côté enquête, avec beaucoup d'actions, en tout cas de décisions qui vont changer le cours de la vie des personnages. Voilà, la saison 1, on est plus sur un côté, tragique, romance, qui montre beaucoup les rapports entre carnivores et herbivores sur le campus, et plus spécifiquement dans le club théâtre. Voilà, avec beaucoup de monologues intérieurs pour les personnages et même les personnages secondaires. Voilà, la saison 2, enfin, je pense que toi, t'en parleras un petit peu plus sur le côté intrigue. Mais voilà, on est beaucoup plus porté sur le côté enquête, sur le meurtre en question. C'est vrai que ça faisait presque bizarre dans la saison 1, il y a un meurtre vraiment glaçant. Et c'est pas vraiment le centre de...
Ah bon, on n'en parle plus. Après, une fois passé le début, on n'en parle plus.
Voilà, c'est à partir de la saison 2 qu'on se dit « Eh, mais c'est vrai qu'il y a un type qui s'est fait massacrer quand même !»
Attends, mais il n'y avait pas le mec qui jouait tel rôle dans la pièce. Il n'est pas mort Il s'est pas fait bouffer ou un truc comme ça?
Tu sais, ça me fait vraiment penser... Tu sais, c'est les jeux open world où en gros, t'as une grosse mission, t'as l'objectif, puis t'es tellement en train de faire des missions.
Tu reviens 3 jours
et
après,
tout.
Mais on est toujours dans le rush de la mission principale. C'est un peu l'idée. Ouais.
C'est un peu ça, Beastars. Voilà, donc comme je disais, le scénario, c'est pas le point fort de Beastars. Hein. Il y a des gros sourcils de rythme. Il y a un problème d'équilibre entre les personnages principaux qui est assez mal géré, avec des personnages principaux qui disparaissent complètement, soit en cours de saison, soit d'une saison à une autre. Et certains persos secondaires qui sont vraiment sous-utilisés. Je parlais de Six Yeux, mais je parle aussi de Jack, qui est le meilleur ami de Legoshi, qui est malheureusement assez anecdotique, alors qu'on pourrait, on aurait pu lui penser un meilleur sort.
Ouais, du coup, après ce long tunnel, je vais revenir, comme tu as dit, sur l'intrigue dans la saison 2 spécifiquement. Ce que j'ai trouvé un peu surprenant lors du visionnage de cette saison 2, et je sais que je partage ça avec d'autres personnes, dont des gens qui nous écoutent, c'est la toute fin d'intrigue, en fait. Vraiment, la toute fin de l'intrigue de la saison 2 m'a paru mais ultra rushée. Alors, non pas qu'elle est mal amenée, je sais que tu y reviendras un petit peu après, mais vraiment, c'est... Ça a l'air ultra accéléré, où j'ai l'impression qu'en fait, ce qui aurait dû prendre quelques épisodes et être mieux dilué sur le dernier quart de la saison a été ultra rushé pour être ramené à un demi-épisode, quoi, vraiment. Et j'ai trouvé ça assez surprenant. Et même si, bon, je trouve que c'est pas trop mal amené, je suis quand même pas bien satisfait par la façon dont ils ont fait ça.
Je suis assez d'accord. Enfin, un des retours qu'on entend souvent sur la fin de la saison 2 de Beastars, c'est que le déroulement final vient d'un peu de nulle part. Le dénouement, il vient un peu de nulle part. Je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que c'est assez logique par rapport à ce qu'amènent les personnages. On va parler d'abord un peu des thématiques, puis on parlera des personnages un peu plus tard. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement mal exécuté, quoi. C'est-à-dire que ça soit le combat final, que ça soit le moyen d'y arriver, ok, ça correspond à l'arc des personnages en question, mais c'est vraiment mal foutu, quoi. Je sais pas si dans le manga c'est la même chose, mais ouais, c'est dommage.
Quelque chose me dit que c'est peut-être différent. Du coup, ouais, parlons un peu de thématiques avant d'aborder les personnages. Vous le verrez, ou alors vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez déjà visionné Beastars. Ça tourne beaucoup, surtout au départ, sur l'opposition entre herbivores et carnivores. C'est un peu un fil conducteur qu'on va retrouver sur le long des deux saisons et qu'on lâchera jamais. Donc il y a beaucoup de thématiques qui découlent de ça. On a également, et là j'ai trouvé ça déjà un peu plus intéressant, pour les carnivores, du coup, vis-à-vis des herbivores, on a parfois des... ça nous amène à la séparation et ou voir au fait que certains personnages ne séparent pas l'appétit sexuel de l'appétit alimentaire, entre guillemets. C'est-à-dire que, bah, typiquement, genre un renard qui regarderait une poule, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la faim ? Est-ce qu'elle a l'air séduisante ou est-ce qu'elle a l'air appétissante ? Y a des trucs qui sont intéressants de ce point de vue-là. Je sais que toi, tu avais fait un lien sur la partie plutôt animosité.
Oui, bah, en fait, pour compléter ce que tu dis, c'est entre guillemets le sous-texte de la fable du grand méchant loup. Vu qu'on dit après, par exemple, il y a une expression qui dit quelqu'un qui a vu le loup, c'est quelqu'un en fait à qui a déjà fait l'amour, quoi. C'est repris complètement dans Beastars avec cette dualité entre l'humanité et la bestialité, les instincts des animaux en fait qui est très lié à l'attirance sexuelle, et c'est quelque chose qui est déjà développé aussi dans le mythe du vampire, hein, qui est un être séduisant qui mord ses proies pour leur prendre ses vitalités, et ça a toujours été montré comme un être très sensuel.
Oui. Du coup, vu qu'on est dans un environnement scolaire dans Beastars, on a également les habituels tropes dans les animés, quoi, qui se passent dans un milieu scolaire, avec la pression des résultats, les attentes de cette micro-société vis-à-vis des élèves, des étudiants. La pression aussi sociale au sens plus large, que ce soit du coup la famille ou la société. Ouais, je sais que tu avais des trucs intéressants à dire vis-à-vis des stéréotypes.
Ouais, surtout le fait que tous les animaux, dans le monde de Beastars, tous les animaux ont entre guillemets les mêmes proportions que les animaux dans notre monde. C'est-à-dire qu'un loup, va être très grand, un ours va être très grand, un panda va être très grand, une souris va être minuscule. Et donc ça c'est obligé en fait que on doit faire des adaptations par rapport à chacun. Et donc ça pose un thème classique de la place et du rôle de chacun dans une société où on est tous différents, on a tous des tailles différentes, on a tous des capacités différentes. On va avoir tous les animaux en fait vont être un peu rangés, en tout cas vus par les autres par rapport à leurs stéréotypes. On voit le plus le côté carnivore-herbivore, mais va y avoir, je dis n'importe quoi, les herbivores vont plus être en troupeau, les carnivores vont plus être solitaires, avec des fois des gens qui vont dire c'est mieux de rester entre nous. Et c'est assez intéressant par rapport à la position du club de théâtre qui, pour le coup, essaye de mélanger un peu tout le monde. Pour coexister, les carnivores du campus ne mangent que de la viande de synthèse, et il est interdit de manger de la vraie viande. Bon, on verra que ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Pour que les herbivores se sentent en sécurité, voilà, on ne mange pas de viande sur le campus. Et pourtant, malgré ça, les herbivores et les carnivores ne se fréquentent jamais. C'est-à-dire que quand même, on reste chacun dans nos coins et dans nos stéréotypes de l'autre.
Ouais. Passons sur les personnages.
Vas-y.
Tout d'abord, le personnage Legoshi, qui peut être considéré comme le personnage principal de la série, donc qui est un loup, qui est l'archétype du personnage qui se cache sa propre force. C'est-à-dire que dans ce climat de différence entre les herbivores et les carnivores, on a l'impression un petit peu que les herbivores sont les gentils et que les carnivores sont les méchants, ou en tout cas c'est comme ça que c'est représenté, et il y a une certaine pression du coup sur les carnivores en mode « s'il devait y avoir un méchant dans l'histoire, c'est forcément toi, parce que c'est toi qui aurais envie de bouffer son camarade, et pas l'inverse ». Et donc du coup, Legoshi est bien représentatif de la personne qui est foncièrement bonne, mais qui a peur de sa propre animosité, de sa propre force.
Et je pense qu'il a peur aussi d'être vu comme une menace.
Voilà, et du coup, il est en permanence dans une espèce d'inhibition de ses propres capacités à adopter une démarche plutôt nonchalante, toujours courbé, à ne pas faire usage de ses propres capacités, même lorsqu'il pourrait en avoir besoin. Et j'ai, donc, je sais que j'ai trouvé ça intéressant et je pense que c'était ton cas aussi.
Oui.
Et malgré tout, à côté de ça, il y a une belle opposition avec Louis, du coup, qui pour le coup est un herbivore et qui lui, bah, il est un peu deg parce que c'est un personnage qui cherche le contrôle avant tout, qui est l'archétype un petit peu de l'étudiant modèle qui planifie tout et qui maîtrise tout et dont la vie est déjà, enfin. Tout est réglé et pour rouler comme sur des roulettes, quoi.
Ouais, il est charismatique, il est fin politicien, il a tout pour lui, tout le monde le kiffe, voilà.
Voilà, et c'est lui star. D'ailleurs qui est a priori vu comme étant le favori pour être la prochaine Beastar qui donne son nom à l'animé, qui est en gros la star du lycée, mais de façon officielle, quoi, en étant élu comme tel. Et lui, bah, du coup, il... Enfin, le moindre carnivore le grille, enfin, parce que, enfin, le moindre carnivore le plie en deux sans problème, parce que lui il est fort et lui il est faible, et du coup ça donne c'est l'opposé de Legoshi en fait vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce traitement. C'est le personnage qui au contraire voudrait être fort et malgré tout il ne l'est pas et il le sait, et du coup il se retrouve un peu à faire dans le faux semblant en fait, à se montrer comme infaillible alors qu'il ne l'est pas. Et cette opposition entre les deux personnages était vraiment intéressante. Ça, c'est plutôt la saison 1, je dirais.
Oui, oui, mais après, même dans la saison 2, de manière générale, dans les deux saisons, les échanges entre Legoshi et Louis, c'est peut-être les échanges les plus intéressants de toute la série.
Ouais, ouais.
Il y a un troisième personnage principal, enfin, principal en saison 1 et très secondaire en saison 2, qui s'appelle Haru, qui est une lapine naine en fait, qui est considérée comme très attirante par tous les mâles du campus, qu'ils soient herbivores ou carnivores. Et de fait, en fait, c'est un personnage qui est tellement conscient de sa vulnérabilité physique qu'elle adopte des comportements discutables pour
sa propre survie.
C'est ça, pour sa propre survie ou en tout cas pour dans sa vision avoir une valeur. Et c'est des comportements tellement discutables que c'est des comportements qui la mettent en danger entre guillemets pour se sentir vivante ou au moins de décider de à qui elle donne à qui elle livre sa vulnérabilité, quoi. Et ouais, c'est un comportement qui est intéressant, je trouve, je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les séries japonaises. Où les rôles féminins, malgré des fois une certaine diversité, sont quand même assez stéréotypés sur la manière de voir le sexe et de, entre guillemets, contrôler ses relations sexuelles qu'elle a. C'est un espèce de numéro d'équilibriste entre le personnage classique de demoiselle en détresse et un personnage qui, finalement, contrôle complètement son destin.
Libéré, quoi.
Ouais, c'est ça. En tout cas, je trouvais ça un personnage très intéressant. Dommage qu'il soit moins développé dans la saison 2, au profit de Juno, qui est un personnage aussi intéressant. Mais ouais. Voilà.
Du coup, maintenant, abordons notre dernière partie historique, qui est la VF.
Vas-y.
Donc, mon premier visionnage s'était fait en version originale sous-titrée. Du coup, mon revisionnage s'est fait en VF. Je dois dire que, grosso modo, c'est plutôt pas mal. Les rôles très secondaires et les voix additionnelles, comme d'habitude, sont un petit peu en deçà, parce que, comme toujours, sur les animés qui se passent dans un lycée, il y a beaucoup de personnages uniques qui apparaissent, et forcément, on ne peut pas attribuer des comédiens différents à chaque fois, comme potentiellement on le ferait en VO. Malgré tout, du coup, je trouvais la prestation qui était plutôt bonne, et au final, bah, je suis assez satisfait de cette VF. Et du coup, bah, à la limite, si je devais me refaire l'animé aujourd'hui, je me dis que je pourrais tout à fait me le refaire en VF, ce serait un bon plan.
Oui, surtout que, alors là, comme d'habitude, hein, la VO est bonne, hein, y a pas de souci avec ça, mais je trouve pas qu'il y ait des moments ou des interprétations qui soit spécifiquement assez incroyable pour que la VF soit vraiment en dessous à ce niveau-là. Globalement, hein, c'est vraiment propre en termes de casting, hein, notamment même les personnages secondaires sont légèrement en deçà, mais la plupart se tiennent bien quand même, puissant que ça a été bien travaillé. Y a une grosse maîtrise du comédien Stéphane Fourreau sur le personnage de Louis en VF. La VF de Louis est vraiment, vraiment excellente.
Ouais, il faut dire que s'il y avait un personnage à pas rater, c'était celui-là.
Et ben en même temps, ils sont, pour moi, c'est le meilleur, c'est le personnage qui est vraiment le mieux interprété.
Ils en étaient conscients.
Ouais. Même limite, je trouve plus mieux interprété que Legoshi.
Oui.
Que Legoshi, ou on va dire qui est intéressant sur ses introspections, un peu moins dans ses échanges. Voilà, c'est, après c'est une dualité un peu compliquée, donc je comprends, mais c'est voilà, et puis un peu moins convaincu aussi par le personnage, par l'interprétation de l'actrice qui joue Haru. Voilà, par, un peu comme Legoshi, il y a des, une dualité qui est un peu compliquée à gérer. Pour moi, il y a vraiment que sur Louis que c'est vraiment très excellemment géré. Les autres s'en sortent bien, hein, mais sur Louis, c'est vraiment un niveau au-dessus, quoi. Un petit mot aussi sur l'adaptation. Parce que, y a vraiment, comme je disais, il y a vraiment, notamment dans la saison 1, beaucoup d'introspection et des, en tout cas des monologues intérieurs. La VF a fait souvent le choix de faire de l'adaptation en utilisant moins de références, moins de métaphores et quelque chose de beaucoup plus parlé. Et des fois même les sous-titres sont un petit peu pénibles à lire tellement c'est littéraire entre guillemets. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable en VF à ce niveau-là.
Ok, et eh ben on va considérer que c'était le mot de la fin.
Yes.
On va se quitter comme d'habitude sur un petit extrait VF de la série. Cet épisode signe également du coup le retour cette année de nos épisodes canoniques.
Yes.
Et c'est pas fini.
Ouh, on a quelques-uns derrière.
C'est pas
ouais.
Fini. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. On vous demande donc de rester à l'écoute pour l'arrivée des prochains épisodes. Et puis en attendant, et bah à bientôt.
Ciao.
C'est fini, tu ne feras plus de mal à qui que ce soit. Et maintenant, je veux t'écouter me supplier d'épargner ta vie. Oui, c'est ce que j'attends de toi. Je suis curieux. Tu vas me montrer le comportement d'un carnivore. Quand il a peur de perdre la vie, pleure, supplie que je t'épargne.